Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont échoué tout près du but. Après Nikola Tesla et Klaus von Stauffenberg, Mathieu, vous nous brossez le portrait d'un aventurier britannique qui voulait traverser l'Antarctique en solitaire et sans assistance, et qui finalement a échoué lui aussi tout près du but.
Oui, et autour de cette table, vous savez tous à quel point c'est rageant d'échouer tout près du but, surtout David, qui en 1992, alors qu'il participait à sa première boom, a échoué à galocher Constance alors qu'il était à ça de sa bouche, le temps qu'elle se resserve un banga entre deux slow, et c'était Julien Bijard qui a fait la mise.
Salaud, ça me dégoûte.
Oui, mais tant pis pour elle Stéphane, car depuis le banga a coulé sous les ponts et il est permis de voir les choses différemment, c'est Constance qui en 92 est passée tout près du but, celui de sortir avec David, puis de se marier avec l'homme formidable qu'il deviendra au fil des années, et se réveiller chaque matin aux côtés d'un artiste complet qui lui aurait dit... Échouer près du but est donc une question de point de vue, sauf dans le cas de notre personnage du jour, le malheureux Henry Worsley, pour qui même Nietzsche n'avait pas prévu de dicton réconfortant, car tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, ok, mais tout ce qui te tue, point barre. Je ne vous spoile pas, je vous ai déjà annoncé que l'histoire d'Henry se termine mal, elle commence le 4 octobre 1960 à Londres. La mode du twist déferle sur le monde en évitant soigneusement la demeure de Sir Richard Worsley, général émérite de l'armée britannique. Marié à Sarah Ann Sally, fille de brigadier, autant vous dire que chez les Worsley, on n'est pas chez les hippies, ça file droit. C'est dans ce cocon militaire que grandit le petit Henry. Fils donc de Richard le Général et apparenté à Frank Worsley, le capitaine du navire du célèbre explorateur Ernest Shackleton, pionnier des expéditions au pôle sud. C'est là la principale différence, si vous voulez, entre Henry Worsley et moi. Moi, dans ma famille, en termes d'aventure, le plus au sud qu'on soit jamais allé à Noël, c'est Cavaillon. Et ma seule source de documentation sur l'Antarctique, c'est Bibi Fox. Henry, lui, très jeune, va se fasciner pour ses expéditions polaires et dévorer tous les livres à ce sujet. Mais dans le pensionnat pour garçons où il étudie dans le Kent, Henry est tout sauf un binoclard, hein, cet jeune homme hyperactif qui s'adonne aux joies du cricket, du rugby et du hockey, si bien qu'en quelques années, il devient au moins aussi musclé qu'Olivier Véran. En toute chose, il fait preuve d'une volonté à toute épreuve. C'est un garçon qui va toujours au bout des défis qu'il entreprend, comme lorsque je m'arrache au canapé pour aller prendre des Knacky Balls dans le frigo et que je me heurte le petit orteil contre le pied de la table basse, mais que faisant fi de la douleur, je continue mon chemin vers le frigo. Avec Henry, on fait partie de ces gars-là. Des gars costauds physiquement, durs au mal, mais qui ont aussi, comme on dit dans Marie-Claire, une vie intérieure. Henri est un adolescent qui lit énormément, des poésies, des récits d'aventure. Un jour, alors qu'il a 13 ans, il tombe sur un livre intitulé « The Art of the Antarctic », qui n'est pas, Stéphane, comme vous l'auriez aimé, un livre sur l'art tantrique, mais sur l'Antarctique, ce grand truc tout blanc de l'autre côté du monde où les gens marchent la tête en bas. C'est du moins comme ça qu'à 13 ans, je voyais la chose. Le cœur de l'Antarctique, c'est l'histoire d'Ernest Shackleton et de sa tentative ratée d'atteindre le pôle sud en 1907. Worsley est émerveillé par l'homme et sa devise « Fortitudine vincimus » avec « Endurance nous conquérant », qui deviendra 100 ans plus tard le slogan de la marque Viagra. Mais voilà, Stéphane, Henry est fils de militaire. Or, quand on est fils de militaire, eh ben, on peut difficilement devenir autre chose que militaire soi-même. Henry s'engage donc dans l'armée, ce qui n'empêche pas le soir venu, alors que ses camarades se plongent dans la lecture de Penthouse, de se replonger, lui, dans les récits de Shackleton, récits qu'il écrira plus tard, l'ont littéralement hypnotisé. Au combat, il applique la méthode Shackleton, pas de hiérarchie, pas de privilège du gradé, on est ensemble, no pain, no gain, on est tous des frères. Un lieutenant atypique qui, lorsqu'il retire ses rangers, dévoile aussi une passion plus surprenante chez un militaire aventurier de l'extrême, la couture. Oui, entre deux stages de survie et deux missions commando, quand il ne joue pas de la calache, Henry aime à tricoter. Petit fun fact, en 97, il se porte même volontaire pour enseigner la frivolité, une technique de fabrication de dentelle, à des détenus d'une prison de Londres. Une initiative qui n'est pas sans rappeler celle de Stéphane Bern lorsqu'il avait gentiment proposé de partager sa passion pour les timbres avec des détenus de Guantanamo autour d'un afternoon tea.
Vas-y, c'est qui a eu cette idée chelou ?
Déclara David Castle-Lopet, le directeur de la prison, qui ne donnera pas suite. Henry, lui, poursuit son ascension, il est promu capitaine. Et comme il trouve l'armée normale un peu soft à son goût, il rejoint le Special Air Service. Une unité d'élite constituée uniquement de types triés sur le volet habillés en noir, de la tête aux pieds, capable de croquer une brique sans se péter une canine et de tenir à 15 dans une chambre froide pendant 3 jours en se nourrissant uniquement de sorbet à l'urine. Vous voyez le genre. Non, c'est pas la réaction que j'attendais. Le taux de réussite du concours qui s'étale sur 6 mois avec des épreuves plus atroces encore que celles des poteaux de Koh-Lanta ne dépasse pas 15%. Henri sera. Bien sûr, de ces 15%, il intègre le célèbre SAS. En 2002, sa bravoure est récompensée par une récompense militaire, la mention élogieuse de la reine pour service précieux. Celle-là, vous ne l'avez pas, Stéphane.
Non.
Mais voilà, même dans les SAS, Henri réussit à s'ennuyer. Il est désormais père de famille, mais son goût de l'aventure polaire le hante toujours. Sa femme dit même que l'Antarctique est sa maîtresse.
Salope !
Après, on peut le dire, c'est ce qu'elle pensait en tout cas. Après un pèlerinage sur la tombe de son héros Shackleton, son destin bascule en 2004 quand il est contacté par Alexandra Shackleton, la petite fille de l'explorateur. Elle le chauffe pour relever un défi, réussir là où son valeureux papy a abandonné. Je vous passe les détails de la préparation de cette expédition. Analyse topographique poussée, entraînement hors normes, récolte de 400 000 dollars. Clairement, on n'est pas face à une rando en raquette avec l'USA. 3 ans de préparation sont nécessaires. En octobre 2008, Henri s'élance avec 2 autres aventuriers. La séparation avec sa famille est difficile. Les enfants ne comprennent pas son choix. Pour rassurer sa femme, il promet qu'il fera demi-tour comme Shackleton si c'est trop dur. Il aura ce mot mémorable. Mieux vaut un âne vivant qu'un lion mort. L'expédition va durer des semaines, par moins 40 degrés, à raison de 8000 calories brûlées par jour, un sans faute Weight Watcher, Stéphane. Séquence émotion quand Henri découvre la cabane dans laquelle Shackleton et ses hommes ont séjourné. C'était comme entrer dans la tombe d'un pharaon. Comment bouleverser Henri? Mais vous connaissez la suite, Stéphane, vous savez comment ça va se terminer pour Henri?
Il va mourir.
Non, surprise, il va vivre. L'expédition est une réussite. Avec ses potes, ils atteignent le pôle sud, où, dit-on, ils auraient fait d'ailleurs une sacrée chouille avec les Esquimaux. Mais c'est peut-être une légende, car renseignement pris, on trouve apparemment assez peu d'Esquimaux au pôle sud. Bref, c'est la deuxième expédition d'Henri, celle de 2016, qui lui sera fatale. Cette fois, il veut s'attaquer à l'Antarctique en solitaire. Sa femme lui dit « Vas-y Henri, tu veux pas rester à la maison, je t'achète une PS4 ». Mais Henri n'en démord pas. En 2015, il reprend son baluchon direction le pôle sud pour un périple de 80 jours. Il tient chaque jour un journal de bord audio qui nous transmet par téléphone satellite. On sait ainsi que son repas préféré, c'est les spaghettis lyophilisés, qu'il imagine bien Matt Damon jouer son rôle au cinéma dans l'éventualité d'un biopic. Précision importante, si vous envisagez, Stéphane, une croisière du Ponant, magie de la banquise, pour faire pipi là-bas, dans les meilleures conditions, sans risquer de finir avec un Mr Freeze entre les jambes, il faut être dos au vent et très rapide. Voilà, alors très vite, la situation se dégrade. Hein. Les tempêtes se multiplient, il est obligé de rester plusieurs jours sous la tente. Son journal de bord se fait de plus en plus désespéré. Je m'arrête chaque minute pour reprendre mon souffle. Journée horrible, journée brutale. J'ai l'impression de nager à contre-courant. Et bien sûr, aucun Esquimau à l'horizon pour l'aider, puisque ces cons d'Esquimaux n'ont pas jugé bon d'habiter le pôle sud. God damn it, se dit Henri, en proie au désespoir, d'autant que jour après jour, son corps le lâche. Le 2 janvier, il atteint le pôle. Alors moi, perso, là, je m'arrête, j'appelle Europe Assistance. Que fait Henri? Il entame la deuxième phase de son aventure, l'ascension du dôme Titan qui culmine à 3000 mètres. Parce que oui, sinon l'Antarctique, c'est pas drôle, c'est plat. À partir de là, inutile d'essayer d'intégrer du lol dans le drame, car c'est assez poignant. La veille de son décès, alors que ses organes le lâchent les uns après les autres, il appelle une dernière fois son fils. « Je veux juste entendre ta voix », lui dit-il. « Je veux juste que tu me redonnes les codes Netflix », lui répondra son fils. Non, je déconne, ça c'est plus fort que moi. Son fils et sa femme, évidemment, lui demandent d'appuyer sur le bouton pour que l'équipe vienne, l'équipe des secours arrive. Non, Henri a oublié sa promesse de l'âne et du lion. Contrairement à Shackleton qui avait su abandonner à temps, Henri, lui, n'arrive pas à s'y résigner. Il s'entête. Finalement, appelé à la rescousse, trop tard, les secours le retrouveront inanimé sur la banquise en mode Cornetto Vanille. Il est tombé à 50 km de son but. Lors de la dispersion de ses cendres, quelques mois plus tard, son fils aura le mot de la fin. Tout le monde a des rêves, mais mon papa, c'est le gars qui les réalise. Ouais, enfin, à 50 km près, bonhomme. C'était en tout cas une cérémonie fort émouvante, car c'est Henri lui-même qui avait choisi le disque.
Non mais voyez, j'étais en train de verser une larme.
Et puis au dernier moment, je vous ai cueilli. C'est vrai. Ben oui, mais écoutez, c'était quand même une belle histoire, mais c'était fatal.
Jusqu'au bout de nos rêves, vous savez, c'est...
Ah, vous alliez le chanter presque.
Oui, presque, mais j'ai évité. merci Mathieu. Bon, donc je retranche ce qu'il faut de votre récit. Bibi Fogg, il n'avait pas choisi
ça. Non, il ne connaissait même pas Bibi Fogg. Ça n'a pas été exporté en Angleterre.
Donc il y a 1% de faux, allez.
Comme d'habitude. Et vous avez un livre, je crois, Stéphane, qui existe. C'est un livre qui relate, si vous voulez connaître cette histoire, à 100% vrai, pour le coup.
Oui. Ça s'appelle « The White Darkness » de David Grann. C'est traduit en français aux éditions du Sous-Sol.
Et ça vous fait rire, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.